Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le podcast de Moodstep où je tente de construire mon utopie. Dans cette construction, je me rends compte que parce que je veux réfléchir au système, eh bien on est un peu dans une abstraction. Alors aujourd'hui, tout change. Aujourd'hui, je vais à la rencontre de David Le Rebourg. Alors, je connais David parce qu'il est intervenu au sein d'un forum Happy Lab il y a quelques années sur... Il a fait un atelier ou une expérimentation de méditation en pleine conscience. Et puis, on s'est suivi au cours des années, on s'est recroisés ici et là. Et dernièrement, il a posté une information comme quoi il s'était installé dans un hameau. Et tout de suite, je me suis dit, voilà une utopie concrète. Allons donc explorer qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, pourquoi ils le font, bon, vous voyez toutes les questions qui peuvent en découler. Donc je vous propose aujourd'hui d'aller à la rencontre de David qui est dans le village de Pourgues, près de Toulouse, et nous allons essayer de comprendre que font ces gens et peut-on nous aussi créer notre utopie concrète. Voilà, retrouvons tout de suite David. Bonjour David.
Bonjour Johanna.
Bienvenue sur ce podcast. Tu es tombé dans mes filets. Tu n'es pas au courant, mais tu viens de tomber dans mes filets. Puisque je fais un podcast où j'essaye de construire mon utopie. Et j'essaye de ne pas zozoter, ce qui est très dur apparemment tout de suite.
C'est l'émotion.
Ouais, c'est ça, de te retrouver. Parce qu'en fait, on s'est rencontrés, j'ai refouillé dans mes archives, tu étais venu intervenir à un forum Happy Lab, c'est bien ça?
Ouais, c'était ça. J'étais venu animer une séance de méditation de pleine conscience, ouais.
Ouais, c'est pour ça que j'étais étonnée, donc ça fait quelques années de ça, et puis entre-temps on s'est recroisés, tu étais à la Fabrique Spinoza à un moment, et puis là je vois passer une information, entre-temps j'ai vu que tu avais monté une école démocratique, et récemment tu as posté quelque chose en disant que tu t'étais installée à la campagne, d'ailleurs il faudrait que tu me dises un peu, tu es où, mais surtout... J'ai eu l'impression que tu étais en train de construire ta propre utopie, c'est-à-dire dans l'action. Alors peut-être tu pourrais nous expliquer ce que tu fais et où tu vis actuellement ?
Oui, alors je vais pas commencer par ce que je fais parce que c'est justement, je fais pas l'idée de plus trop faire mais d'être. Donc je suis en Ariège, à 1 heure au sud de Toulouse. Dans une commune qui s'appelle le Fossat et un lieu-dit qui s'appelle Pourgues. Voilà. Et sur ce lieu-dit, on a monté il y a 2 ans un éco-village qui s'appelle le village de Pourgues.
C'est quoi un éco-village ?
Alors un éco-village, c'est en tout cas celui-là, c'est le regroupement d'une vingtaine d'individus de tout âge. Ça commence à 2 ans et ça finit à 50 ans. De se regrouper pour essayer de changer de paradigme, en tout cas de tendre vers autre chose que ce qui nous est connu depuis maintenant, en tout cas pour moi, 43 ans.
Bah là, tu m'intéresses tout de suite d'entrée de jeu. Justement, j'aimerais comprendre tes motivations. Et vos motivations, puisque vous êtes un groupe, donc tu viens de le dire, d'une vingtaine de personnes. Qu'est-ce qui a fait Est-ce que vous fuyez? Qu'est-ce que vous construisez? C'est les deux.
En fait, bon, l'idée n'est pas de fuir parce qu'on a décidé de construire quelque chose ensemble qu'on n'est pas intégré dans notre écosystème. Donc, on ne fuit pas. Maintenant, foncièrement, toi, comme tu l'as fait aussi il y a quelques temps, tu as quitté Paris. L'idée, c'est de trouver autre chose qui ait plus de sens, qui soit plus proche de la nature. Et l'idée du collectif, c'est aussi de pouvoir développer cette intelligence collective qui permette de créer des choses merveilleuses.
Mais tu as bien dit changer de paradigme. Donc c'est quoi ce changement? De quoi vers quoi?
Le projet, dans un premier temps, il a pour vocation de changer de paradigme vis-à-vis de l'éducation de nos enfants. Ça, c'est le pilier fondateur de ce projet, c'est de considérer nos enfants comme des personnes à part entière, dotées des mêmes droits et du même respect que les adultes. Donc ça, déjà, en termes de changement radical, on va fort, c'est-à-dire que nos enfants ici sont considérés comme des personnes qui ont la liberté de faire leur propre choix, sans forcément qu'il y ait une autorité supérieure, qu'on appelle le parent ou l'adulte, qui va les ou la société ou l'école, qui va leur dire quoi faire, comment le faire, et à quel rythme le faire.
Mais alors, toi, en tant que parent, tu autorises et tu acceptes tous les choix de tes enfants?
Presque tous. Je pense qu'on a pour ambition de tendre vers quelque chose. On n'y est pas forcément toujours. Donc, mais oui, je pense pouvoir dire que je laisse énormément de liberté à mes enfants.
Avant de t'installer en Ariège, donc tu étais à Paris, tu as monté l'école démocratique. Je suppose que ça t'a beaucoup influencé aussi dans. Je ne connais pas les autres personnes du groupe en Ariège, mais ça t'a influencé dans ce que tu es en train de mettre en place là en Ariège avec l'éducation des enfants?
Oui, totalement. Hein. C'est un projet qui est en droite ligne avec les écoles démocratiques. D'ailleurs, dans ce projet, il y a d'autres fondateurs de d'autres écoles démocratiques. Et c'est ça qui nous a réunis, en fait. C'est de se dire que, la liberté qu'on offre à nos enfants dans des écoles démocratiques, c'est bien, mais c'est pas assez parce que ben, on est engoncé entre quatre murs. Et que sortir dans la rue, c'est pas forcément donné à tout le monde. Donc la liberté, elle est pas forcément totale. Et puis aussi, c'est que on offre cette liberté aux enfants, mais quid des adultes en fait. Et nous, on voulait aussi jouir de cette même liberté qu'on donnait à nos enfants. Et c'est ce qu'on se propose. En tout cas, c'est ce qu'on s'offre ou qu'on essaye de s'offrir à Pourgues.
Est-ce que tu peux rappeler ce qu'est une école démocratique? C'est quoi sa spécificité par rapport à Montessori ou à d'autres écoles?
Bah, pour faire vraiment très simple, la différence avec toute autre école dite alternative, c'est qu'il n'y a pas de pédagogie. Dans le sens, une méthode qui va guider l'enfant vers quelque chose. D'ailleurs, quand on me posait la question à l'époque où j'étais à l'école, on me disait, ah oui, mais vous êtes comme Montessori, et moi j'avais l'habitude de répondre, bah, Montessori c'est une école alternative et nous on est une alternative à l'école. Voilà. Et c'est très vrai en fait, c'est-à-dire qu'une école démocratique a pour vocation de redéfinir totalement la notion même d'école. Pour nous, c'est pas un endroit où, quoi, c'est plutôt un endroit, je veux dire, ce que c'est plutôt un endroit, c'est un formidable environnement de liberté. Sécurisé, bienveillant, facilitant, qui permet à un individu de s'épanouir à son rythme et selon ses propres chemins. Voilà. Ce que ne font pas les autres écoles, alors ce que ne fait pas forcément l'école classique de l'éducation nationale, l'école publique, et ce que ne font pas forcément non plus les écoles dites alternatives, qui ont aussi pour vocation à, je donne un exemple, hein, mais un enfant d'apprendre à lire, écrire, compter. Nous, on fait confiance à l'individu dans sa capacité à apprendre par soi-même ce qu'il a besoin au moment où il en a besoin.
Donc par exemple, pour apprendre à lire,
Bah,
comment il
pour
fait?
apprendre à lire, bah, ça se fait tout naturellement. Voilà. Il n'a pas besoin d'avoir un professeur ou un maître ou une méthode pour apprendre à lire. Ça se fait comme se fait d'autres apprentissages plus jeunes, comme la marche ou le langage, ou le fait d'être propre sur soi, le fait de plein de choses en fait. C'est que on considère, et ça aussi c'est quelque chose qui fait la spécificité des écoles démocratiques, c'est que les apprentissages sont naturels et on n'a pas besoin d'une tierce personne, on n'a pas besoin de les forcer. pour apprendre, parce que ça se fait tout seul.
Mais sauf qu'il y a une différence entre la marche ou être propre et la lecture, c'est que la lecture c'est quelque chose qui a été créé par l'homme. Les autres c'est des besoins, j'ai envie de dire, ou c'est des mécanismes naturels. Est-ce que l'enfant a le droit de venir chercher l'adulte pour apprendre à lire? Comment
Ah, bien sûr, oui, bien sûr, il n'y a pas de. En fait, on s'interdit rien dans une école démocratique. Donc, si un enfant exprime le besoin d'apprendre à lire, forcément, il y a des facilitateurs. Donc, quoi, les adultes sont des facilitateurs qui sont là pour accompagner l'enfant dans ses besoins.
Donc si un enfant fait le choix de ne pas vouloir lire, jamais, vous acceptez son choix.
Tout à fait. Tout à fait.
Waouh! Excuse-moi. Waouh! Ah oui?
Oui, tout à fait. Et c'est ce que moi je fais avec mes propres enfants. Et ce que je voulais dire, c'est que ça marche. C'est-à-dire que quoi, je ne suis pas un pionnier dans la matière. Il y a des centaines de milliers d'enfants qui, depuis des décades, n'ont pas été accompagnés dans leurs apprentissages. Et aujourd'hui, c'est des personnes bien sous tout rapport, on peut dire, qui ont des vies normales. Voilà. Donc ça marche, en fait. C'est ça qui est fou, c'est qu'on a oublié, que l'individu est un être naturellement apprenant. Et on a voulu le rentrer dans des chemins tout tracés avec des rythmes qui ne lui sont pas propres, en fait, des rythmes imposés, des rythmes normés. Et voilà, moi, c'est ce que je ne voulais pas pour nos enfants, en fait. D'où la création de cette école démocratique dans le 19e arrondissement de Paris. Et ce qui est pour moi la juste continuité de ce projet, c'est le village de Pourgues où on casse encore plus les codes de l'école. En fait, c'est une grosse école démocratique ici, sauf que les adultes ont aussi cette capacité de jouir de leur liberté individuelle.
Mais quand tu dis ça marche, ça veut dire qu'il y a atteint un objectif. Qu'est-ce que ça veut dire ça marche? Puisque les enfants vont apprendre par eux-mêmes ce qu'ils veulent. Donc ça marche, ça voudrait dire qu'il y a une forme de réussite, mais c'est quoi la réussite alors?
Non, quand je te dis ça marche, c'est que si tu n'apprends pas un enfant à lire, il saura lire. Voilà. Alors, ça peut être complètement fou ce que je dis, mais c'est la vérité. Si tu n'apprends pas un enfant à écrire, il saura écrire. Alors, il ne saura pas forcément écrire à 8 ans, comme on l'attend à 8 ou 9 ans, comme on l'attend dans le système classique, mais il saura lire, en fait. Et il saura écrire, et il saura compter. Il saura plein d'autres choses.
Par curiosité, par enthousiasme, parce qu'il
Et
veut
pas.
faire comme les autres, par mimétisme.
Je pense surtout par motivation. C'est aussi un des fondamentaux du projet Village de Pourgues et des écoles démocratiques. Et moi, c'est ce qui m'a, je pense, qui nous manque énormément aujourd'hui dans notre société, c'est quid de nos motivations intrinsèques. Qu'est-ce qui fait qu'on se lève les matins? Est-ce que c'est comme beaucoup, parce qu'il faut se lever, parce qu'il faut aller travailler, ou est-ce que c'est parce que y a quelque chose en nous qui nous réveille et qui nous, ouais, qui une étincelle. Et c'est ce que nous on cherche dans les écoles démocratiques, c'est permettre à un individu d'aller découvrir ses motivations intrinsèques. Et à un certain moment, si dans sa motivation nécessite tel ou tel savoir, ben la personne, elle saura comment faire naturellement pour acquérir ce savoir. Et donc la lecture ou l'écriture viennent de, non pas de la curiosité ou du mimétisme, c'est parce qu'il y a un besoin ou une motivation.
Ok, et tout à l'heure tu as dit que donc c'était une grande école démocratique à Pourgues parce que elle s'appliquait aussi aux adultes. Ils étaient inclus dans ce projet qui n'est pas un projet puisque c'est une réalisation.
C'est une réalisation.
De quoi tu parles quand tu parles de liberté? Quelle liberté tu n'avais pas et que tu as maintenant?
Ouais, je pense que alors c'est ce que je te disais tout à l'heure, quand tu m'as dit qu'est-ce que tu fais et où tu le fais, c'est très révélateur on pense plutôt au faire qu'à l'être. Donc pour moi, la première des libertés qu'on a ici, c'est d'être réellement qui on est en fait. Ou en tout cas de pouvoir le comment dire le révéler sans faux semblant, sans obligation. Ici, rien n'est obligatoire. C'est intéressant, rien n'est obligatoire dans ce collectif. On n'est pas obligé de faire des choses, que ce soit en termes d'argent, que ce soit en termes d'activité. Donc ça permet à un individu de prendre le temps qui lui est donné pour, en fait, comme il le veut en fait, et d'assumer pleinement la responsabilité de ce qu'il entreprend.
Mais c'est pas parce qu'il n'y a pas d'obligation, qu'il n'y a pas une pression sociale, ça n'a pas besoin d'être dit pour qu'on se sente parfois obligé, non? Il faut bien, par exemple, il faut bien manger. Donc je suppose qu'il y a un potager et qu'il faut il faut bien cultiver si parce que après il y a toutes les dynamiques de groupe là dans votre groupe.
Oui, alors c'est très intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai quand on pense liberté, on pense, bon, ben on fait ce qu'on veut, mais ce qui est très important, c'est que la liberté, elle est fortement reliée à une responsabilité. C'est-à-dire que moi, par exemple, si aujourd'hui on décidait tous de ne rien faire et de vivre pleinement cette vie qui nous est donnée, effectivement, on ne pourrait pas payer nos charges, on ne pourrait pas payer nos crédits, on ne pourrait pas forcément se nourrir. Donc, on en viendrait à perdre cet environnement de liberté qui nous est donné. Donc, la liberté qu'on a là aujourd'hui, elle est fortement liée à cette responsabilité que de garant de cette liberté. Tu comprends? Donc, en fait, on se contraint soi-même, c'est-à-dire qu'on fait des choses. Mais on ne les fait pas par contrainte ou par obligation, on les fait parce que ça a du sens. Et ça a du sens parce que ça pérennise notre environnement de liberté, ce cadre de liberté. Je pense que ici, dans les 20 et quelques personnes qui sont aujourd'hui présentes sur cet endroit, aucune n'a envie de partir de cet endroit, en fait. Donc chacun, et là aussi, il n'y a pas d'équité. D'équité, chacun fait ce qu'il a envie et donne ce qu'il a envie. Et le collectif lui fait confiance et n'attend rien en retour. Donc tu vois, là, on est quand même on revient sur le changement de paradigme. On essaye de créer une société comment dire, ouais, sans attente, sans condition, basée sur la confiance. Sur la liberté et la responsabilité.
J'aimerais bien, je suis curieuse de savoir déjà comment vous êtes rencontrés, comment vous avez décidé de faire ça ensemble, même si on n'a pas bien défini encore le ça. Est-ce que vous avez posé un contrat moral de départ ou des conditions à ce que ça fonctionne entre vous?
Non, on a rien posé du tout, en fait. C'est ça aussi qui est un petit peu fou. C'est qu'on est parti. Alors on est parti, comme je te le disais, sur un petit groupe de cofondateurs d'écoles démocratiques. Donc on avait envie de créer un lieu de vie qui repose sur les mêmes valeurs et sur la même philosophie que les écoles démocratiques. Et puis,
C'est quoi ces valeurs?
écoute, je pourrais dire liberté, égalité, fraternité, quoi.
D'accord, ouais.
C'est
Non,
vraiment
mais
ça.
c'est beau comme valeur.
C'est vraiment ça. C'est-à-dire que nous, on ne les affiche pas sur les frontons de nos écoles, mais on les vit, on essaie de les incarner au quotidien. Ouais, je pense qu'on ne peut pas mieux traduire c'est vraiment ces valeurs-là. Donc, on est parti sur ça, sur effectivement cette idée d'égalité entre les individus, quel que soit leur âge. Et petit à petit, est venu s'agréger des gens qui étaient intéressés par le concept. Et en fait, il n'y a pas eu de sélection, il n'y a pas eu de charte. Ça s'est construit comme ça. Il y en a qui sont venus, il y en a qui sont partis, il y en a qui Il y en a qui sont restés, en fait, et c'est ça qui a constitué le groupe de départ de ce projet.
Alors ça ressemble à quoi? Donc en fait c'est un lieu-dit, donc des maisons, chacun dans sa maison. Quels sont les communs notamment?
Alors, chacun n'est pas dans sa maison, en fait. On a
D'accord.
aujourd'hui un domaine de 50 hectares avec une grande bâtisse de un peu plus de 800 mètres carrés qui est habitée ce que moi j'appelle les villageois. Et ensuite, on a deux gîtes. Qui sont aussi habités par des villageois et quelques habitats légers, dont un dôme, une roulotte et une tiny house, qui sont là aussi habités par les villageois. Voilà. Donc en fait, tout le monde n'a pas sa petite maison et ce n'est pas l'objectif du projet d'avoir sa petite maison sur la colline. Et ce qui fait commun, ben, ce qui fait commun, c'est. Je vais te dire, c'est ce qu'on veut en fait. Il y a pas de forcément de commun prédéfini, parce que si on avait des communs prédéfinis, forcément, on imposerait à l'individu quelque chose, ce qu'on ne veut pas. Par contre, il y a des gens qui ont des appétences pour le maraîchage. Donc, il y a des gens qui font du maraîchage, il y en a d'autres qui n'ont pas envie de mettre les mains dans la terre, et c'est bien comme ça. Il y en a qui ont envie de développer l'activité d'accueil. Il y en a qui ont envie de développer l'axe formation, puisqu'on accueille aussi des formations sur le lieu. Et donc voilà, chacun contribue là où il veut à son propre épanouissement et à l'épanouissement du lieu.
Donc vous arriveriez s'il y avait quelqu'un dans cette communauté qui décidait de ne rien faire, ça ne créerait pas de tension et aussi comment on gère tout ce qui est de l'ordre de la justesse dans la vie en commun, s'il n'y a pas de règles?
Alors, ce que je peux te dire, c'est qu'il y a des gens aujourd'hui qui ne font rien. Donc,
Cool.
voilà, donc ça aussi, on l'accepte. Je ne vais pas te dire, parce que je pense que ça serait te mentir, que c'est facile d'accepter, parce que
Ah.
on est tous conditionnés, on a tous nos propres expériences, et on vient effectivement d'un monde où, oui, si je fais, bah, toi aussi, tu es obligé de faire, en fait. Donc c'est pas simple tous les jours en fait, bien sûr, mais c'est possible. Et l'objectif c'est de laisser faire ça en fait et de l'accepter. Donc après il y a tout un travail personnel qui se met en œuvre pour changer aussi de paradigme dans sa tête, hein.
Ouais, c'est une adaptation. Et vous avez des moments communs, parce que j'ai l'impression donc qu'il n'y a pas vraiment de règles, rien n'est véritablement formalisé, mais est-ce que vous avez des moments de décision ensemble? S'il n'y a pas de décision après à prendre,
Si, si, bien
tu
sûr,
vois?
si, si. En fait, on a tout un. Alors, on a des règles. On a des règles
Ah,
de
vous
vie.
avez des règles!
Oui, on a des règles de vie
Ah.
commune. Oui, bien sûr, oui. On a des règles de vie commune, oui, qui vont de la. Comment dire? De la. Du rangement jusqu'à respect d'autrui. Donc, oui, on a des règles. Et c'est important. Alors. Aujourd'hui, en tout cas, ça nous semble important d'avoir ce que moi j'appelle un règlement intérieur, mais qui est pour moi un cadre, en fait, pour régir notre propre liberté. Et ce qui évite d'empiéter sur la liberté de l'autre, en fait. Donc ici, par exemple, si quelqu'un a envie, parce qu'il se sent libre de taper quelqu'un d'autre, bah, il n'a pas le droit. Donc on limite sa propre liberté parce que on tient à ce que l'autre soit libre.
Ce cadre qui dit ce qui est quel est le règlement intérieur, quelles sont les règles, qui a décidé de ce cadre?
Alors, c'est assez intéressant ce que tu poses comme question parce qu'effectivement, là aussi, donc oui, là aussi, nous prenons des décisions ensemble. Ces décisions, elles sont prises dans un organe qu'on appelle le conseil de village, qui a lieu tous les jeudis, donc toutes les semaines. On a 2 heures pour débattre et décider ensemble. Et notamment, ben, on débat de propositions. C'est un petit peu comme une assemblée nationale où on a des porteurs de propositions qui amènent une proposition, qui argumentent sur cette proposition. Alors, ça peut être un changement dans le règlement intérieur, ça peut être un budget, ça peut être un projet qui impacte le collectif. Et ensuite, il y a débat avec les pour, avec les contre. Et on vote normalement en 2 lectures, on vote à la majorité absolue. Voilà.
En 2 lectures.
Oui. En 2 lectures parce qu'on souhaite se laisser le temps de pouvoir réfléchir à tout ça, de pouvoir en débattre de manière informelle pendant la semaine et de pouvoir ensuite revenir au prochain conseil de village. Avec des idées peut-être plus claires, plus posées et votées en conscience.
T'as parlé de budget. Vous
Oui.
avez un budget commun? Comment ça fonctionne? Il y a une dîme?
Non, il n'y a pas de dîme.
C'était vraiment une boutade.
Là aussi, en fait, chacun donne ce qu'il veut. Donc, tu as des gens qui donnent rien et tu as des gens qui donnent beaucoup.
Donc t'as des gens qui donnent rien, t'as des gens qui donnent beaucoup, mais tout le monde a la même voix dans les conseils de village.
Et tout le monde a la même voix. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, il n'y a pas de distinction. Ici, une personne, une voix, quel que soit son âge et quelle que soit, on va dire, sa contribution financière ou sa contribution en termes d'engagement, hein.
Donc les enfants ont une voix.
Les enfants ont une voix, oui.
Alors le budget en commun, il sert à quoi? Qu'est-ce que vous mettez dans les dépenses communes?
Alors, dans les dépenses communes, on achète une fois par semaine, on achète des fruits et légumes parce qu'on n'est pas encore, on n'est pas encore en autonomie alimentaire. On achète quasiment une fois par mois, on achète des produits de base type céréales,
Gros
légumineuses.
sel, riz.
Légumineuses, gros sel, produits d'entretien. Voilà, ça c'est des choses qu'on capitalise. Après, chacun se sert. Voilà, qu'est-ce qu'on met encore en commun? Ben, les achats, on va dire par exemple pour d'investissement du lieu, pour acheter de quoi faire. Notre maraîchage, bah, du broyat par exemple, de la terre, du compost. Voilà, si on a besoin, là, on va faire une commande de bois pour construire des sanitaires à l'extérieur. Donc voilà, tout ça, c'est des budgets communs.
Et vous avez fait l'inventaire en fait des choses qu'il y a à faire quand je pense au potager, entretien de la maison, plein de choses comme ça. Et comment vous faites pour que chacun puisse faire, même s'il n'est pas obligé, mais qu'il puisse faire quelque chose, qu'il sache ce qu'il y a à faire?
Bah en fait, là aussi, on essaye de s'organiser. On a chaque lundi matin, on a une réunion. On a une
Ça fait deux
réunion.
réunions.
Alors,
Ça commence à devenir corporate là.
elles sont pas obligatoires. Tu n'es pas
Ah.
obligé de venir. Il y a rien que, je te dis,
De toute façon, je
rien n'est
commence à
obligatoire.
comprendre. Ouais.
Donc,
Ça commence à
pas
rentrer.
obligatoire. Mais par contre, effectivement, pour pouvoir s'organiser sur la semaine, savoir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'il y a à faire, ben, on se réunit le lundi matin et on fait, là aussi, chacun amène les points qu'il souhaite traiter à l'ordre du jour et voilà, et ça se met en place et on peut prendre des décisions en disant, ben voilà, là, aujourd'hui, ben là, on l'a fait ce matin, hein, la réunion, ben, on a décidé qu'on avait du terrassement à faire, on a décidé qu'on allait faire cette semaine. On est en train de travailler sur un permis d'aménager parce qu'on a un projet de construction. Donc, on s'est dit que demain, on se donnait rendez-vous pour ceux qui veulent à 9h30 pour parler de ça, etc., etc. Donc, on organise un petit peu notre semaine, en fait. On fait un point sur la semaine passée, on organise la semaine, et voilà.
Et donc, il n'y a personne dans ce groupe, enfant comme adulte, qui ait des prérogatives particulières ou qui soit responsable plus qu'un autre ou leader.
Si, il y a des responsables, il y a des responsables qui sont élus. Qui sont élus par le conseil de village. Oui.
Alors, ça va être des responsables de quoi, par exemple?
Alors, tu as des responsables, par exemple, pour tenir le conseil de village, on a un secrétaire et un président
D'accord.
qui ont pour le secrétaire qui, lui, va construire l'ordre du jour de chaque COVI. Donc, il a pour vocation à récupérer toutes les
Covid, en
demandes de.
fait, c'est une famille, c'est ça?
COVI, pardon, c'est conseil de village. COVI.
Ah, pardon, excuse-moi.
Donc
Ok.
il organise,
Ah oui.
il crée l'ordre du jour du conseil de village avec les propositions qui lui ont été faites par les villageois. Et il a pour responsabilité pendant le conseil de village de construire le compte rendu, quoi, de prendre les notes. C'est un petit peu comme un greffe. Et le président, il a pour responsabilité d'animer le conseil de village. Donc c'est lui qui donne la parole, c'est lui qui repose les règles si on voit que ça commence à s'emporter. Voilà, c'est lui
T'as
qui est
dit qu'ils
garant.
étaient élus, tous les deux ils sont élus?
Ils sont élus, ouais, ils sont
Et
élus par le
élus tous les
conseil de
combien? Ils
village.
font ça combien de temps?
Ils sont élus tous les 6 mois.
D'accord. Est-ce
Voilà.
qu'ils peuvent être réélus?
Oui, tout à fait. Oui.
Autant de fois qu'on veut?
Oui.
D'accord.
Ils peuvent démissionner aussi s'ils ont envie, s'ils considèrent que voilà, s'ils ont plus envie de le faire, là aussi on peut pas les empêcher de quitter leur fonction, donc ils peuvent démissionner. Voilà, après il y a d'autres responsables, on est organisé par pôle, donc il y a un pôle aménagement par exemple. Donc il y a deux responsables qui sont élus pour tout ce qui concerne l'aménagement du lieu, que ce soit à l'intérieur de la bâtisse et à l'extérieur. Il y a un responsable du pôle espace vert, maraîchage espace vert. Il y a un responsable du pôle activité touristique, accueil. Voilà. Et toutes ces personnes-là ont été élues. En fait, on a créé des postes. Il y a des candidats quand il y a des gens qui sont portés candidats. Et ensuite, il y a eu des élections.
Et Pourg, en fait, donc j'ai cru comprendre que vous pouviez avoir des sources de revenus par le tourisme ou, je suppose, l'organisation de séminaires, de choses comme ça. Mais vous êtes donc une vingtaine, vous ne vivez pas des revenus du lieu et vous êtes encore en France, dans notre monde capitaliste. Donc, comment se font les liaisons, c'est-à-dire comment vous faites pour subvenir à vos besoins, sachant que vous n'êtes pas en autonomie? Comment ça se passe pour vous? Il y en a qui travaillent à l'extérieur
Ouais, c'est assez divers en fait. On a des personnes qui ont encore des activités à l'extérieur, mais partiellement. Il y en a d'autres qui n'ont aucune activité et qui touchent le RSA. Il y en a quelques-uns qui sont au chômage, donc qui touchent les allocations chômage. Voilà. Et ce qui, effectivement, n'est pas une solution, en tout cas,
à long terme.
ce n'est pas une solution qu'on souhaite long terme. En tout cas, c'est un bon moyen de nous permettre de tendre vers l'autonomie, en fait. Parce que ce projet est jeune, hein, il a 2 ans.
Oui,
Hein.
il est jeune,
On a,
mais c'est intéressant aussi. On ne voit pas tout ce qui peut se passer parce qu'il est jeune aussi. Et dans les projets d'expérience, au début, tout peut très bien se passer, mais c'est là où ça va être intéressant de voir comment il va maturer. Parce que j'ai l'impression que c'est les interactions entre les êtres humains dans ce projet qui va faire pour beaucoup dans sa réussite.
Tout à fait. Comme je pense, tout projet collectif, hein,
Ouais.
si au niveau d'un collectif ça se passe pas bien, ça disparaît. Voilà, donc effectivement, c'est un sujet pour nous, et mais en même temps, c'est intéressant de, comme on laisse la liberté à chacun de vraiment d'être pleinement lui-même et en même temps d'être responsable de ce qu'il entreprend ou pas, ça limite les couacs, en fait. Après, on vit ensemble, donc il y a des conflits et c'est normal, c'est vraiment inhérent à la vie collective. Donc, on a aussi des outils qui nous permettent de traiter nos conflits, en fait. Et
Comme quels outils?
on a mis en place un outil qui s'appelle les cercles restauratifs, qui nous permettent de traiter nos conflits de manière. Alors, ça aussi, c'est intéressant, c'est de manière systémique. On considère que le conflit ne concerne pas forcément deux personnes. Mais concerne tout le collectif. Donc, on a mis en place ces cercles qui permettent de restaurer, alors peut-être pas la relation, mais en tout cas le dialogue, et d'aller vers une meilleure compréhension mutuelle des besoins de chacun.
Tu pourrais les décrire? Je suis curieuse. C'est-à-dire comment vous faites s'il y a un conflit, comment ça se passe un cercle restauratif?
Alors, s'il y a un conflit, alors je vais te donner s'il y a un conflit entre A et B, A peut demander à un facilitateur, donc aujourd'hui on a quatre facilitateurs qui sont formés au cercle restauratif, d'initier un cercle. Il va initier ce cercle avec un cas précis. Donc il amène un acte, ce qu'on appelle un acte. Il va formuler cet acte au facilitateur et il va inviter des personnes à ce cercle. Donc il va sûrement inviter B. Mais il va aussi inviter C, D, E, parce qu'il considère que. En fait, je n'ai même pas à dire de parce que, c'est. Voilà, il a envie
Il
de les
fait ce qu'il
inviter.
veut,
Il fait
sa
ce qu'il veut.
liberté.
Voilà. Et ensuite, le facilitateur va aller voir B, C, D, E. Il va leur retranscrire l'acte qui est à l'initiative de ce cercle. Et il va demander à ces personnes-là si elles souhaitent inviter d'autres personnes. Quoi. Déjà, si elles souhaitent venir au cercle, et ensuite, si elles répondent positivement, si elles souhaitent inviter d'autres personnes. Et voilà, on constitue un cercle comme ça. Donc, ça s'appelle les avant-cercles. Et le jour J, ben, toutes les personnes qui ont été invitées se réunissent. Ben là, il n'y a pas de. En fait, il n'y a pas de cadre, en fait. Chacun exprime ce qu'il a envie et besoin d'exprimer, avec cette idée que on n'est pas là pour poignarder l'autre, mais pour restaurer quelque chose. Donc, on essaye d'écouter l'autre. Et la reformulation est assez importante. C'est vraiment sur des principes de communication non violente. Je ne sais pas si tu connais. Je pense que tu connais ça.
Oui.
Mais voilà, on va essayer de restaurer le dialogue et de faire en sorte que chacun comprenne bien le point de vue de l'autre, pas forcément en étant d'accord avec l'autre, mais en tout cas via la reformulation d'écouter et de comprendre l'autre. Et on finit un cercle avec un plan d'action, voilà, qui peut être rien du tout, c'est une action, hein, de ne rien faire. Et on finit par un plan d'action qui dépend de bien sûr, chaque cercle est différent. Et ce processus se termine par un après-cercle où, quelques jours, voire quelques semaines après, on réunit les personnes pour voir comment ça s'est passé.
On arrive à régler tout en un cercle avec le
Bon.
service après-vente après.
Non, non, pas forcément. Non, non, mais.
Oui, donc ça peut être plus long, ça peut être des processus plus longs.
Ouais, ça peut être plusieurs cercles, mais en fait, il y a une notion ici super importante, c'est le temps. On a le temps ici, vraiment. Et ça aussi, dans qu'est-ce qui fait que je peux prétendre à parler de changement de paradigme, c'est qu'ici, ici, le temps a une valeur totalement différente de ce qu'on peut connaître de nos vies folles. Alors, de citadins ou de. Voilà. Donc, on a le temps ici. Et si un cercle, c'est pas résolu, c'est pas grave, en fait. On refera un autre cercle.
Faut pas qu'ils s'entretuent. Je regarde trop d'émissions sur les meurtres, hein, excuse-moi, mais faut pas qu'ils s'entretuent entre deux cercles.
Ouais, bon, après, en même temps, on est que des êtres ici qui ont envie que ça se passe bien. Donc, l'idée est pas de se. Quoi, je pense que réellement, il y a un travail sur soi qui se fait et qui se fait là aussi tout naturellement. Donc, sinon, on serait pas dans ce collectif et on serait pas sur ce projet. Si on était juste à vouloir tuer l'autre, ça marcherait pas.
Et j'en reviens puisque tu évoques tes motivations. Est-ce que vous avez aussi eu des inspirations, c'est-à-dire d'autres collectifs qui vous ont inspiré et qui vous ont motivé à passer le pas?
Oui, il y a eu le projet, quoi, qui est pas un projet, qui a quelque chose de bien réel, qui est le hameau des Buis en Ardèche, qui est un collectif différent du nôtre, mais qui est parti du principe que qu'il fallait construire une école différente. Donc, pour le coup, ça a été du Montessori au départ. C'est devenu une école démocratique par la suite, avec tous les âges à côté. Donc, ils ont créé une école et ils ont créé un hameau avec des retraités, ce qui a permis de créer du lien entre toutes les générations. Donc, ça a été inspirant pour la création de ce lieu, oui.
Qu'est-ce que tu dirais qui est fondamental dans ce changement de paradigme que tu as fait? Qu'est-ce qui déjà, qu'est-ce que tu n'as plus et qui te pesait dans la vie que tu vivais avant? Et qu'est-ce que tu as fondamentalement gagné en faisant ça?
Bah, j'ai gagné en liberté. Enfin, c'est quoi à dire, hein, mais j'ai gagné en liberté.
Alors, où n'étais-tu pas libre dans ta vie à Paris?
En tout cas, je me sentais endossé beaucoup d'obligations, malgré les projets que j'ai pu mener qui avaient beaucoup de sens, hein, monter une école différente pour permettre à des enfants d'être épanoui, ça avait énormément de sens, mais en même temps, bah, j'étais obligé de me lever tous les matins pour ouvrir. J'étais obligé de plein de choses pour faire que cette structure voie le jour et puis soit pérenne. J'étais obligé de passer des week-ends à faire de la communication. J'étais obligé de gagner de l'argent pour payer mon loyer. J'étais obligé plein de choses en fait. J'avais beaucoup d'obligations. Je pense qu'on s'en rend peut-être pas compte. On n'a pas forcément conscience de toutes les obligations qu'on endosse, mais on en a énormément.
Ce qu'il y a, c'est que là, vous visez l'autonomie, c'est ça?
On essaye de tendre vers l'autonomie. Je pense qu'on n'aura pas, quoi, on n'est pas non
Énergétique, alimentaire,
plus. Tout à
il y a
fait. Ouais.
d'autres autonomies?
Déjà, celles-là sont bien. Énergétique, alimentaire, parce que justement, ça permet de diminuer nos besoins en argent. Et là aussi, on essaie de redéfinir la notion de travail, en fait. Moi, ce que je faisais, c'est que je travaillais pour gagner de l'argent pour me nourrir, on va dire basiquement, hein.
Ouais.
Aujourd'hui, ce que je fais, c'est que je travaille la terre pour me nourrir. Donc, j'ai enlevé une étape. Et comme on le fait collectivement, bah, je peux faire aussi plein d'autres choses que travailler la terre, qui me sont propres, qui me permettent de m'épanouir, de me développer.
Ça veut dire que derrière, t'as quand même pas les mêmes désirs. Je parle de tous les besoins que notre société ont créés. Tu vis beaucoup plus simplement, non?
Alors là aussi, j'ai pas, ça serait mentir. Oui, je vis beaucoup plus simplement. Maintenant, j'ai encore des progrès à faire. Et on ne peut pas balayer d'un revers de la main
Le téléphone portable.
le téléphone portable, les voyages, voilà. Donc, je pense que là aussi, c'est un chemin qui est somme toute très personnel, hein. Ici, il y a des gens qui sont beaucoup plus autonomes que moi, et c'est très bien comme ça. Mais chacun a son propre chemin et son propre rythme. Donc oui, j'avais déjà beaucoup diminué mes besoins à Paris, mais j'ai encore des marges de progression. Voilà.
Pourquoi tu dis qu'il y en a qui sont beaucoup plus autonomes que toi? C'est pas le collectif qui devient autonome, c'est les individus.
Bah oui, c'est les individus en fait. Chacun fait comme il veut.
Mais par exemple, vous avez un potager commun?
On a un potager commun, oui. Mais
Ou
bon,
travaille
par
qui veut?
exemple, je te donne l'exemple de la viande, par exemple. Ici, on n'achète pas de viande en commun. Ouais, c'est un choix, en partie financier, aussi d'ordre philosophique. Donc, moi, j'aime manger de la viande. Donc, qu'est-ce que je fais? Ben, je vais acheter de la viande. Donc, tu vois, j'ai un besoin d'acheter de la viande. Il y en a qui l'ont pas, en fait.
Ah oui, d'accord, et c'est vrai que là, pour le coup, ça réduit ton autonomie.
Mais le beurre, c'est pareil, par exemple. Moi, j'aime le
Ah,
beurre.
me parle pas de beurre.
J'aime manger du beurre avec mes tartines le matin. Il y en a qui ont décidé de s'en passer. Donc, ils n'en achètent pas. Et moi, j'en achète encore. Voilà. Et peut-être que je continuerai à en acheter, en fait. Ou peut-être que je déciderai un jour de me dire, zut, crotte, zut, on va avoir des brebis et puis on fera son propre beurre. Ce que je suis en train de penser pour la viande, d'ailleurs. Tu vois, je suis en train de me dire que ça serait un projet qui m'intéresserait de pouvoir avoir quelques moutons brebis sur le lieu et de pouvoir en partie en avoir pour sa consommation personnelle.
Comment vous intégrez ce qu'on appelle le progrès, et encore faudrait aussi le définir, lui, c'est-à-dire si on revient à des méthodes qu'avaient nos grands-parents, hein, moi je vois, mon grand-père, hein, voilà, ils cultivaient leurs patates, pareil, mon oncle et ma tante, ils vont au poulailler, nos vies, elles ont bien changé depuis la vie de nos grands-parents, donc est-ce que c'est un retour à cette vie-là? Et quelle est votre relation, au progrès technologique?
Bah, regarde, là, on est sur Skype, donc je peux pas dire qu'on n'est pas avec des. On n'est pas
Oui, mais ça,
avec
c'est
des.
l'état actuel. Je parle même du progrès, c'est-à-dire si tout le monde vivait comme vous là, faisait ce choix-là, on développerait plus de choses comme Internet, tu vois, on développerait plus de technologie.
Bah, si, pourquoi? En fait, l'un n'empêche pas l'autre. Nous, En tout cas, ce qu'on propose, en tout cas ce qu'on veut, c'est effectivement de vivre plus simplement, plus sainement, plus librement. Voilà. Après, ça n'empêche pas que, quoi, ça ne veut pas dire rejeter les progrès technologiques ou quoi. L'un peut aller avec l'autre, en fait. Aujourd'hui, moi, j'ai un téléphone portable. Je vais pas me séparer de mon téléphone portable. On n'est pas en train de prôner le retour du télégramme ou du pigeon voyageur. C'est
Oui,
pas du
mais
tout ça.
dans votre structure-là, par exemple, donc vous n'êtes pas encore en autonomie, même si vous arriviez à être en autonomie, et si tout le monde faisait ça, tout le monde faisait ce type de cellule qui a l'air de fonctionner aussi parce qu'elle est à taille humaine, qu'en serait-il des hôpitaux? Alors là, on ne parle pas des écoles, puisque l'école démocratique, vous la faites vous-même, en laissant vos enfants libres,
Nous, on est
mais...
contre quoi? Je veux te dire, pour nous, arrêtons les écoles. Ce serait mieux.
Oui, donc je vois pour l'école, mais par exemple pour la santé. C'est-à-dire que même si on prône un retour à la santé naturelle, il y a quand même des opérations, la chirurgie, toutes ces choses-là qui demandent de mettre des moyens en commun.
Oui, mais comment te dire? Moi, c'est pas, comme je te disais tout à l'heure, tu me demandais si on fuit. Une société, on la fuit pas en fait. On est en train d'essayer de créer modestement et à notre humble niveau, d'essayer de transformer notre société en fait. C'est ça qu'on est en train de faire. Et on rejette pas du tout ce qui a été fait jusqu'à présent. Maintenant, ça serait se mentir que de dire que notre société va bien. Elle va vraiment pas bien. Tu vois les hôpitaux. Ça marche pas bien. Alors oui, c'est aujourd'hui tu as envie de te faire soigner, ben tu peux, mais il y a de plus en plus de gens malades. Alors pourquoi il y a de plus en plus de gens malades? Pourquoi il y a de plus en plus de consommation de médicaments? Pourquoi? Donc tu vois, c'est ça, c'est que pour moi le progrès il est bien, mais Mais comme tu le disais aussi justement, c'est quoi le progrès? Cette fuite en avant vers toujours plus, ben, en tout cas, moi personnellement, je considère que c'est pas, c'est, j'allais dire, je dirais même à court terme, c'est aller droit dans le mur en fait. Donc nous, ce qu'on décide, ce qu'on a décidé, et là je le dis bien encore modestement, on n'a pas vocation à révolutionner le monde, mais en tout cas, c'est notre action personnelle, individuelle, que de dire stop, on va ralentir, on va revenir à des choses qui sont plus saines, on va se poser des questions sur nous-mêmes déjà, qu'est-ce qu'on a réellement envie de faire, qu'est-ce qu'on a envie d'être. On va essayer de, non pas de, on n'a pas la prétention d'être totalement autonome parce que ben, on va pas cultiver du riz, donc on achètera toujours des choses à l'extérieur, mais par contre, effectivement, plutôt que d'aller dans un supermarché et pas réfléchir, juste prendre le truc qui a été fait, on ne sait pas où et par qui et avec quoi, bah nous on se dit, bah ouais, bah, mettons un peu d'énergie, un peu moins d'énergie dans des travails, dans des boulots qui n'ont pas de sens, et un peu plus d'énergie dans des activités où on va vraiment en voir le fruit. Et là je parle au sens propre, c'est ouais, manger ses propres fruits, quoi, et manger ses propres légumes. Voilà. Et je pense qu'on sera un peu moins des adeptes des hôpitaux parce qu'on mangera peut-être mieux et on aura une vie plus saine, plus proche de notre rythme personnel. Voilà.
J'ai l'impression que ça va peut-être pas révolutionner le monde, mais par contre, ça révolutionne carrément vos vies à vous. Ça change tout, là, la façon dont vous vivez par rapport à comment vous avez grandi même.
Bien sûr, mais ça changera le monde si y a de plus en plus de gens qui font comme nous. C'est comme ça qu'on
Ah, mais
change
ils
le
sont
monde.
libres, David. Ils peuvent faire autrement aussi.
Mais
Tu devrais le
oui,
savoir en tant
bien sûr.
qu'adepte de...
Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il est possible de faire autrement, en fait. Et il y a plein d'autres autrement. Il y en a énormément des autres possibles. Maintenant, et je le dis en connaissance de cause, c'est que l'inconfort est somme toute très confortable.
Tu vois, à chaque fois, tu me donnes. Je me dis, tiens, je voudrais l'interroger là-dessus, et tu me donnes la perche. C'est quoi les plus gros inconforts pour faire ce changement de paradigme? Et quels sont aussi les plus gros freins qu'on a dans notre société pour tenter une aventure comme celle que vous êtes en train de vivre?
Bah, c'est pour moi la peur de perdre ce qu'on a. Donc la peur de l'inconnu. Et je le dis pour moi et je le dis aussi pour plein de personnes que j'ai pu rencontrer dans ma vie professionnelle. Et c'est ça que j'appelle l'inconfort confortable. C'est que on n'est pas bien, mais quand même. Et on va trouver toutes les raisons du monde pour se dire, ah, mais quand même, on est bien, quoi. Mais on n'est pas bien, mais quand même, on est bien. Et en fait, c'est ça, c'est pour moi la plus grosse, la plus gros, le plus gros blocage, il vient de nous, en fait, hein, et de ces peurs qu'on a de changer, en fait. Je crois même que notre cerveau n'aime pas le changement. Il aime les habitudes. Donc voilà, ces habitudes-là, ben ça nous brûle, quoi, hein.
Et aujourd'hui, c'est quoi la plus grande difficulté d'avoir fait ce pas-là?
Écoute, j'ai pas de grosses difficultés, en fait. C'est
Par exemple, comment ça a été accueilli par ton environnement familial ou amical?
bon, ça va, ils avaient déjà l'habitude, tu vois. Ça fait déjà quelques années que je suis un petit peu sorti du chemin qui m'était tout tracé. Donc ça a pas détoi, ça a pas surpris son monde. Donc voilà. Après, on vit avec de l'incertitude. Moi,
Ah,
je
d'accord.
sais pas de quoi demain sera fait. Et en même temps, c'est un avantage, c'est que demain est un jour nouveau où on peut faire plein de choses, en fait.
Ouais, et tu sais, des fois, j'ai l'impression aussi que dans cette société, certains manquent d'aventure, notamment peut-être les hommes. C'est un peu sexiste ce que je dis, mais ce manque d'aventure, bah voilà une aventure. Moi, j'ai l'impression que là, vous vivez une aventure. Du risque.
Ouais, c'est une aventure. Ouais,
Ouais.
c'est une aventure humaine. Hein. C'est totalement ça. On est dans une, on a embarqué dans un bateau et on vogue. Voilà, il y a pas de, il y a pas un capitaine. Il y a plein de capitaines. Il y a des gens qui, il y a des gens qui travaillent à tirer les voiles. Il y en a d'autres qui se prélassent au soleil. Et en même temps, personne râle parce qu'il y en a qui font rien. Et voilà. Mais ce qui n'empêche, c'est que des fois, on se bouscule. On se regarde en chien de faïence, mais au final, on est toujours sur le même bateau et on se dit que bah, ça vaut le coup quand même de continuer cette aventure ensemble.
Ouais, j'ai l'impression qu'il y a une volonté commune de liberté et que ça, c'est comme un intérêt supérieur qui fait que même quand on rencontre des difficultés, on est prêt à essayer de les résoudre.
Tout à fait,
Ouais.
tout à fait, tout à fait. Et oui, c'est ça en fait, c'est que on a tous, comme je te disais tout à l'heure, on a tous intérêt à. Ah, excuse.
Salut!
Oh, ça c'est Gaïa.
Salut Gaïa, ah,
C'est
la
Gaïa.
Terre!
C'est Gaïa, 2 ans presque, qui vient de me rejoindre. Donc je vais l'inviter à venir avec moi ici. Tu viens t'asseoir à côté de moi?
C'est l'illustration parfaite de la liberté des
Ouais,
enfants.
te dire la vérité, j'ai essayé de la refiler à quelqu'un. Et cette personne m'a envoyé Donc je lui ai envoyé un message enfin pour les auditeurs en fait. Donc ma compagne était censée s'occuper de notre fille, mais elle a eu une crevaison sur l'autoroute, donc elle n'a pas pu. Et donc j'ai laissé Gaïa à une de mes comparses là, mais qui bah tu vois qui a dit bah non en fait, j'ai pas envie.
Gaïa,
Non, ouais.
elle parle déjà? Non, elle parle pas, Gaïa.
Gaïa, tu dis des trucs, Gaïa. Toi, tu parles un peu. Tu veux dire
Bah
quelque chose? En fait, j'ai le micro, elle comprend pas en fait encore.
ouais, c'est sûr.
La petite puce, elle rigole.
Bah on arrive au bout, donc je sais pas, à moins que tu aies vraiment quelque chose d'important qui te semble qu'on n'ait pas traité et que tu voudrais rajouter.
Non, écoute, je pense que moi j'invite, c'est un sujet qui peut prendre des heures et des heures. Il y a tellement à dire et tellement à échanger aussi. Ce que je pense qui est important, c'est qu'on n'a pas prétention à détenir une vérité. On ne porte pas un dogme avec nous. Donc c'est pour ça que c'est aussi intéressant, et tu l'as très bien dit, c'est que les gens ne sont pas obligés de faire comme nous en fait. Par contre, voilà, c'est quelque chose qui peut être très inspirant. On accueille des gens, donc c'est aussi pour ça qu'on a ouvert nos portes pour que les gens viennent voir comment ça se passe en fait dans la vraie vie, viennent s'immerger le temps d'un week-end, d'une semaine ou d'un mois avec nous. C'est possible. Donc voilà, j'invite ceux qui sont intéressés, ceux qui nous ont écoutés à aller sur notre site web, à aller un petit peu fouiller un petit peu plus qui on est. On a écrit quelques pages sur notre philosophie et pourquoi pas venir nous voir.
Bah écoute, en tout cas, je mettrai le lien dans l'article qui sera sur SoundCloud, sur iTunes et sur mon blog Moodstep. Merci beaucoup, David. C'est bien ce qu'on n'a pas discuté avant, comme ça me permettait de découvrir en même temps que tout le monde ce que t'es devenu et ce que t'es en train de faire. Et c'est bon, en fait, aussi de parler avec quelqu'un qui est dans une utopie concrète, j'ai envie de dire.
Oui, j'aime bien ce que tu dis là, parce que c'est vraiment une utopie. Alors moi, j'appelle ça utopie réaliste, mais utopie
Ouais.
concrète me va très bien aussi. C'est que on n'est pas une équipe de baba cool qui voulant refaire le monde comme ont pu le faire quelques-uns de nos parents dans les années 60 et 70. On est là, voilà, la version 2.0 de ces communautés où. On arrive avec un pragmatisme et une envie de changer les choses, mais de manière, comment dire, concrète et réaliste. Ouais.
Tu me déçois, je t'imaginais avec une chemise à fleurs et tu sais, je t'imaginais un peu baba cool et en fait pas du tout
Ah, mais j'adore les chemises à fleurs. Tu sais,
quoi.
d'ailleurs, c'est peut-être un truc que je ferai un jour. Je montrerai la marque Magnum. Ça a été ma série. C'était ma série préférée. Et depuis, j'adore les chemises à fleurs. Donc, je pense qu'un jour, je monterai une entreprise de confection de chemises à fleurs que j'appellerais Magnum. Ouais.
Ah ouais,
Ouais,
mais
c'est
alors
sûr même.
cousu en France.
Cousu en France, à Pourgues.
À Pourgues, ah bah voilà, ok. Bon, ouais, c'était en direct le lancement de la marque qui va conquérir le monde, Magnum, ok.
Voilà.
Vérifier que c'est pas déposé, tu vas avoir des ennuis quand même.
Je vais pouvoir me l'autoriser, je peux me l'autoriser, tu vois.
Bon.
On peut s'autoriser plein de choses en fait dans la vie et
À rêver aussi, on peut s'autoriser.
à rêver, ouais, mais ici, ce qui est marrant, c'est que les rêves peuvent très facilement devenir réalité. Voilà. On a cette possibilité qu'ils deviennent réalité. Voilà.
Oh là là, tu fais du marketing là, j'ai l'impression.
Pas
Attention.
du tout, pas du tout. Pas du tout. On est libre, vraiment, on est libre de faire ce qu'on veut. Donc, on le fait. C'est très marrant. C'est des fois, on se dit, il y a quelqu'un qui te dit, ah, j'aimerais bien faire ça. La réponse qu'on donne, c'est, bah, fais-le. Qu'est-ce qui t'en empêche? Et la personne dit, ah, bah ouais, effectivement, ouais, pourquoi je le ferais pas? Et elle le fait, en fait. Tu vois? Et si elle le fait pas, c'est qu'elle n'avait pas réellement envie de le faire.
Ouais.
Voilà,
Merci beaucoup.
Johanna.
Et bon bah bonjour à tout Pourgues, hein,
Ouais,
de
bah écoute,
Bretagne.
si t'es dans les parages, un de ces quatre, tu es la bienvenue, tu seras mon invité.
Bah merci. C'est marrant parce que David a parlé du hameau des Buis. J'ai passé il y a quelques années plusieurs jours avec l'équipe du hameau des Buis et d'autres d'organisations qui sont là pour aller, on va utiliser des grands mots, changer le monde à leur hauteur. Et d'ailleurs, ça m'a marqué ces jours passés ensemble. Ça a été très riche et on se rend compte qu'on rencontre tous des difficultés dans les organisations humaines, justement avec ces valeurs. C'est presque des notions philosophiques. Nos structures, ce qu'on choisit comme structure, ce qu'on choisit comme organisation, finalement, ne sont qu'une représentation de ce qu'il y a en nous. Aujourd'hui, on peste contre la société, mais en fait, elle est sûrement l'image parfaite de ce qui a de la valeur pour nous. Alors, elle crée beaucoup d'inégalités, elle crée beaucoup de tensions environnementales, mais finalement, elle n'est que le produit de ce que nous sommes. Donc, peut-être qu'il faut réinventer ce que nous sommes pour voir ces structures, voir cet extérieur évoluer. David parle aussi du rythme. Alors, du rythme, du temps, du rythme personnel. C'est marrant parce que c'est quelque chose qui revient, je trouve, dans les différentes interviews. C'est comme si on s'était déconnecté, en se déconnectant de la nature, parce que dans la nature, elle est faite de rythme. Même nos corps, les saisons, le jour, la nuit, tout est fait de rythme. Et c'est comme si on l'avait oublié, comme si on s'en était détaché, comme si ça n'avait plus d'importance, alors que c'est sûrement comme une musique qui rend les choses beaucoup plus fluides, je trouve. Et donc j'ai l'impression qu'au cœur des systèmes, oublier justement ces rythmes, ou forcer ces rythmes, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, eh bien, tout le monde est pressé, hein, on est pressé d'aller dans le mur. J'ai surtout l'impression qu'on est pressé d'aller dans le mur. Quand on voit ce qui se passe dans le monde, notre environnement, les montées aussi de rejet, on pourrait dire de haine, parce qu'il est toujours plus facile d'accuser les autres que de se remettre aussi en question. Eh bien, il y a ce truc de on est pressé, tout va vite, il n'y a pas vraiment, on se pose pas. Déjà pour se respecter soi-même, pour prendre le temps de vivre tout simplement, parce que cette vie passe bien vite. Donc, moi, il y a quelque chose que j'aime faire, c'est dilater le temps. Et pour dilater le temps, je vais me nicher dans les minutes, je vais aller faire quelque chose où je ne fais rien et où. Alors certains méditent, hein, moi, j'appelle ça dilater le temps, créer de l'éternité. Seul ou avec d'autres. Donc je trouve cette notion de rythme et de temps vraiment, ça me semble capital. J'ai beaucoup aimé le thème de la liberté et de la responsabilité. Mais toujours, en fait, moi j'ai eu 8 hein, au bac en philo, donc si j'ai le droit d'utiliser des mots un peu vulgaires, je suis une tanche en philo et pourtant tout revient tout le temps, je trouve, à la philosophie ou aux sciences sociales. Il y a une notion aussi capitale qui pour moi est la confiance. Quand j'observe le monde aujourd'hui, je me dis qu'en fin de compte, il est très dur de ne pas être en colère parce qu'on ne sait plus en qui avoir confiance. Je me disais même, je fais de la photo, là je me suis remis vraiment très fort à la photo. Et même dans la photo, en fait, on n'a plus de photos vraiment authentiques, on modifie tout. Quelque chose nous gêne, on l'efface, on modifie les couleurs. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Il y a une notion aussi de justice avec la confiance, c'est-à-dire qu'on n'a plus confiance dans le fait que chaque être va être traité avec justesse, avec justice. Et voilà, et je pense que c'est ça aussi qui crée autant de rage, et parfois des rages qui ne font qu'ajouter de l'huile sur le feu. Mais en même temps, la colère est là, quoi. La colère est là. Mais je me disperse à nouveau. Et parce que j'ai noté encore un mot. Allez, je me lâche. Le mot énergie. C'est vrai que je pensais à... Là, j'ai un collègue d'une ancienne vie d'il y a très loin qui est retourné dans l'entreprise dans laquelle on travaillait, qui est une entreprise... pas très bonne pour la planète, on pourrait dire. Mais par contre, dans cette entreprise où j'ai travaillé, j'avais un patron qui était juste le meilleur des patrons, qui déploie beaucoup d'énergie à avoir des équipes qui fonctionnent, à atteindre des objectifs. C'est dommage quand même que toutes ces gens de grande qualité, on n'utilise pas leur énergie pour les défis incroyables auxquels on a à faire face aujourd'hui. Alors peut-être que tout le monde n'en a pas conscience, ou peut-être que c'est une folie que de croire qu'on est en train de foutre notre monde en l'air, mais ce serait tellement bien que toutes ces fabuleuses énergies soient dirigées à créer un monde où l'on puisse en effet être libre, mais surtout... Un monde qui soit où on puisse respirer et manger et vivre sans s'empoisonner tous les jours. Mais voilà, ça y est, je pars dans ma solastalgie là. Je l'ai expliqué au dernier épisode, mais je vais sortir, je vais aller voir la mer, ça va me faire du bien. En tout cas, merci d'avoir écouté jusqu'ici. On se retrouve pour un prochain épisode que d'ailleurs j'enregistre dans exactement 2 heures avec quelqu'un qui a... On pourrait dire... Alors, il n'y a jamais personne qui bouleverse nos vies, mais en fin de compte, je l'ai rencontrée à un moment où, juste par son questionnement, elle a fait basculer ma vie. Et j'ai fait des très grands changements à ce moment-là dans ma vie, donc je suis très heureuse de la recevoir pour parler d'un sujet que je ne connais pas du tout et dont je ne déflorerai pas... ici le thème, puisque je sais pas ce que ça va donner. Donc on se retrouve pour un prochain épisode. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne semaine, voire plusieurs très bonnes semaines, car je prends mon temps. Et oui, depuis que je fais ce nouveau thème de podcast, je prends mon temps. Donc à très bientôt, et aussi j'ai refait mon site internet moodstep.com, allez jeter un coup d'œil, et si vous n'êtes pas abonné à la lettre d'information, il est temps. Au revoir, bonne journée.